France Culture, les matins d'été.
Quoi ne pas partir sur la plage ou à la montagne ou à la campagne avec un volume de la Pléiade, par exemple le Pléiade de l'historien Georges Duby pour en parler. Nous sommes en compagnie de Pierre Nora, bonjour.
Bonjour, Guillaume Bernet.
Vous êtes membre de l'Académie française, historien des lieux de mémoire, directeur de la revue Le Débat, et vous avez édité ce grand historien qu'était Georges Duby. Je vous propose d'ailleurs tout de suite, Pierre Nora, d'entendre sa voix.
Essayer de remuer les cendres aussi lointaines et tenter de faire revivre des gens qui ont vécu il y a 1000 ans. À quoi ça sert? Et puis je me persuade très vite que, effectivement, l'histoire, c'est quand même une éducation de l'homme dans le quotidien de la vie. L'histoire, d'abord, ça enseigne l'esprit critique. Ça enseigne à ne pas se laisser prendre au mot, à traiter l'information d'une manière extrêmement aiguë, de façon à débarrasser tout ce qui peut déformer la vérité.
Voilà, nous entendons la voix de Georges Duby, Pierre Nora.
C'est la voix de Georges Duby, je suis très étonné, pour tout vous dire, parce que je ne la reconnais pas à votre antenne, alors qu'elle était grave, elle était très, très, très foncée, si je veux dire, et il la travaillait beaucoup. Elle-même, elle avait une sorte de charisme qui lui a fait beaucoup. Voilà.
Alors, pour rappeler en quelques dates, Georges Duby, il a été élu professeur au Collège de France en 1970.
71, 70.
En tout cas, moi, j'ai 70. Dans la chaire d'histoire des sociétés médiévales qu'il a occupée jusqu'en 1991, quelle a été sa contribution, Pierre Nora, dans l'évolution, peut-être la révolution, de l'étude de ces sociétés médiévales?
Eh bien, je crois que ce qui a été son véritable apport a été plus littéraire, si j'ose dire, que scientifique. Il a certainement... D'abord, il y a deux grandes parties dans l'œuvre de Duby. Il y a une partie qui est très technique, qui est très scientifique, qui est très érudite, qui concerne, par exemple, l'aristocratie, les jeunes, sur lesquels il a fait de grands articles. Il a fait sur l'économie agricole beaucoup, et il a débouché ensuite sur une sorte de compréhension beaucoup plus affective, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus psychologique presque. Et son œuvre couvre surtout un panoplie extraordinaire, puisqu'il a commencé avec l'étude de la société dijonnaise au XIIe siècle. Mmh. Il est passé à l'économie rurale en faisant deux grands volumes sur l'économie rurale du Moyen-Âge. Puis, il est tout d'un coup, c'est presque une révolution, passé à l'étude de l'art comme révélateur de la société. C'était des livres que les albums, que Albert Schirral lui avait demandé. Et trois albums magnifiques que j'ai repris sur sans les illustrations, avec le texte développé, parce que les illustrations l'écrasaient un peu, et au détriment du texte, c'était le temps des cathédrales. Et puis, à partir de là, il s'est beaucoup plus intéressé aux mentalités qu'aux économies, et il a écrit un livre qui est probablement son chef-d'œuvre, qui s'appelle « Le dimanche de Bouvines », et qui a une histoire propre, qui est, si j'ose dire, lié à moi. C'est une collection des 30 journées qui ont fait la France, qui existait chez Gallimard, et pour lesquelles on cherchait un auteur. Et le dimanche de Bouvines, c'est une bataille grâce à laquelle Philippe Auguste a pu gagner, élargir son royaume et assurer une forme de première unité française. Donc c'est une bataille nationale, si j'ose dire. On l'avait beaucoup raconté, et dans cette histoire bataille, demander à un homme comme Duby, qui fait partie de ce qu'on appelle l'école des annales, c'est-à-dire celle qui a lutté contre l'histoire pure des batailles, l'histoire militaire, l'histoire diplomatique, pour s'intéresser à l'histoire des sociétés, c'était un véritable défi. Il a été stupéfait quand je lui ai demandé s'il le ferait. Et en réfléchissant, il l'a fait d'une manière puissamment originale, qui faisait déjà tourner l'histoire en quelque sorte sur ses gonds. C'est que il a tout simplement commencé par le récit, par le chapelain qui suivait Philippe Auguste dans la bataille de Bouvines et qui donnait son témoignage. Mmh. Et à partir de là, il étudie ce qu'est la guerre au Moyen-Âge, ce que représente par exemple le fait d'avoir fait la guerre un dimanche à Bouvines, ce qui est un véritable sacrilège. Voilà des choses qu'une histoire récit n'avait pas l'occasion de faire.
C'est-à-dire que si je vous suis bien...
Il a fait l'histoire avec ça, avec comment, à partir d'un seul récit de la bataille fait par le chapelain, s'est développé progressivement une sédimentation des récits différents, faux, vrais, et comment s'est constituée en quelque sorte l'idée mythique de la bataille de Bouvines jusqu'à nous. Alors, c'était priorité à ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, et pas simplement de raconter l'histoire. Et cette histoire avait été admirablement racontée par un collaborateur de Ernest Lavis dans La Grande Histoire de France, qui avait paru au début du siècle, et où on racontait parfaitement les causes, le déroulé et les conséquences, en 30 ou 40 pages, d'ailleurs magistrales. Et c'est ça qu'il a voulu éviter. Et il a fait à la fois quelque chose qui était tellement visuel, si j'ose dire, tellement cinématographique, qu'on lui a proposé de le mettre en scène cinématographiquement, et que, ce qui est assez drôle, c'est Serge Julie, le journaliste, qui a fait avec lui le scénario du film qui n'a jamais été réalisé pour des raisons financières. Si vous me demandez ce qu'il a fait, vous sentez à travers ce que je dis le type de révolution qu'il a pu accomplir.
Donc en fait, on part d'une journée, alors là en l'occurrence le 27 juillet 1214, et on explique une époque, un contexte, et donc on sort en quelque sorte de l'opposition Pierre Nora entre l'événement, donc cette histoire où on apprend des dates, et puis cette forme d'histoire qui, elle, aurait une propension à oublier les dates pour être une forme finalement d'analyse de la société.
Oui, exactement. Et en même temps, il le fait de façon si, du coup, si plaisante à lire que je n'ose pas dire on le lit comme un roman, parce que je n'aime pas tellement cette expression d'un livre d'histoire, mais c'est vrai. Et si vous cherchez un livre sur... si vos auditeurs cherchent un livre pour les plages, je dirais que c'est celui-là ou c'est cette partie-là du livre qui a été repris d'ailleurs dans la Pléiade. Parce que la Pléiade n'a sélectionné qu'une partie de l'œuvre qui était précisément la plus agréable à lire et la plus riche du point de vue synthétique, c'est-à-dire les rapports de l'art et de la société, Bouvines, les dames du XIIe siècle, tout ça, il suffit de le dire pour qu'on voit que c'est intéressant et plaisant à lire.
Oui, d'ailleurs, ce qui frappe chez Georges Duby, c'est donc la manière dont il raconte une histoire, là, en l'occurrence le dimanche de Bouvines, a été un immense succès littéraire, et puis la manière dont il va présenter autrement les sociétés, là, en l'occurrence la société médiévale, avec notamment un intérêt appuyé pour l'imaginaire de la féodalité, le fait de s'intéresser aux mentalités. Pierre Nora, qu'est-ce que ça change dans notre compréhension des époques passées?
Eh bien, écoutez, je crois que ça, d'une certaine façon, ça change tout. C'est-à-dire que on est amené d'abord à s'intéresser à des sujets auxquels l'histoire traditionnelle ne s'intéressait pas. Par exemple, les attitudes vis-à-vis de la naissance, du bébé, de l'enfance, vis-à-vis de la mort, et vis-à-vis du temps, le sentiment du temps. Comment est-ce que au XVe siècle, par exemple, on avait un sentiment du temps qui était complètement différent du nôtre, et rien ne peut donner autant le sens de la différence des temps, de la relativité, si j'ose dire, des temps, du changement profond que représente l'histoire, en donnant une approche de ce type de sujet. Ça, c'est plongé dans... Alors, ce sont des sources. Il s'agit d'intéresser au fond. C'est aussi une révolution des sources. Et l'histoire est toujours, quand elle progresse, une révolution des sources. Là, les sources parlent indirectement, au lieu de parler directement. L'histoire traditionnelle, elle s'appuie sur des récits, sur des archives qui disent ce qui s'est passé, si j'ose dire. Et l'historien est celui qui les reproduit, les met en scène, les met ensemble et compose une sorte de récit de ce qui se serait passé en s'approchant au maximum de ce qui s'est passé, en sachant parfaitement qu'on ne saisit pas totalement la réalité, mais qu'on la saisissait quand même. Et si vous voulez, Luchaire, pour revenir à Bouvines, quand il raconte la bataille, il est infiniment probable qu'elle s'est passée comme ça, comme il le dit, l'aile gauche, l'aile droite, l'attaque, le type d'arme, les heures à laquelle c'est arrivé, à partir des archives dont il a pu disposer. L'histoire des mentalités, elle travaille les archives indirectement, c'est-à-dire qu'elle leur fait dire ce qu'elles ne disent pas directement. Comprenez-vous ? Par exemple, je prends un exemple énorme. Vous avez le traité de Verdun qui va, au Moyen-Âge, partager l'héritage de Charlemagne en trois et va donner la Francia qui va donner la France. Bon, alors, on raconte ça, très bien. Eh bien, l'histoire des mentalités consisterait à regarder le document tel qu'il a été écrit et à s'interroger, par exemple, sur l'écriture même du document. Vous voyez que c'est une source tout à fait indirecte. Quand on l'écrivait, on ne pensait pas qu'on interrogerait la nature de l'écriture. Alors, dans un cas, on dit ce que l'écriture dit, et dans l'autre, on dit ce que l'écriture ne sait pas qu'elle dit.
Pierre Nora, on doit également à Georges Duby le temps des cathédrales. Alors, les cathédrales avec l'incendie de Notre-Dame sont à nouveau des objets, des monuments auxquels on songe et qui ont retrouvé leur place dans l'imaginaire contemporain. En tout cas, ça a été particulièrement plus conscient. Qu'est-ce que Duby nous a appris sur les cathédrales et sur les sociétés qui avaient produit ces monuments ?
Écoutez, c'est difficile de dire d'un mot, parce que ça nous a appris tellement de choses que je ne saurais pas vous le synthétiser en un mot. Il a appris à quel point les cathédrales étaient liées à l'ensemble de la société, quel type d'hommes les faisait, les fabriquait ou les montait, la période sur laquelle ça se faisait, et surtout le rapport que la société entretenait avec le monde religieux, parce que ça n'est pas tellement les cathédrales, c'est pas seulement les cathédrales, c'est le religieux, si vous voulez, dans la société entière. Et donc, c'est difficile de vous dire un mot, parce que cette société, ce qui nous a appris, si vous voulez, ou du moins ce qui nous a fait vivre, plus qu'appris, c'est que cette société était de part en part religieuse.
Et oui, et ce qu'il y a de particulièrement frappant, c'est que ce temps des cathédrales, quand il débute avec le Haut Moyen-Âge, donc cette période qui va du Xe siècle au mi-temps, du XIIe, Il y a, Pierre Dora, des peurs millénaristes à cette époque, des peurs de fin du monde, avec un dialogue avec Dieu dont on tente d'apaiser la colère. Et si on tente de rapprocher cela de cette époque de pandémie que nous vivons, on a l'impression que finalement, les êtres humains ne se débarrassent jamais véritablement de ces peurs-là.
Eh bien, il a fait un livre tout à fait spécial sur les peurs de l'an 1000 dans la petite collection que je dirigeais à l'époque, qui s'appelait Archives, et qui consistait à faire parler les archives elles-mêmes au lieu de s'appuyer sur les archives pour parler soi-même, et de donner les documents en les commentant et en les suivant, en quelque sorte. Alors, c'est un des livres que je lui avais demandé de faire pour cette collection et qu'il a fait dans les années, je crois, ça doit être 72, l'an 1000. Et c'est dans la petite collection archive, c'est aussi quelque chose qui est à lire. On ne l'a pas mis dans la Pléiade, d'ailleurs, parce que ça n'entre pas dans le cadre de la Pléiade. Et voilà, il a lui-même étudié donc les peurs de l'an 1000 pour montrer surtout ce qu'elles avaient de, à la fois de mythique et de réel, parce que ces peurs de l'an 1000, c'est pas seulement l'eschatologie divine, c'est la peur de la peste, du choléra et de maladies dont on ne savait même pas ce qu'elles étaient, mais qui ravageaient des villes déjà fragiles et où s'entassait le petit peuple. Et donc ce sont c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant que ce Covid nous ait fait prendre beaucoup plus conscience que le monde traditionnel était pas celui dominé simplement par la guerre, qui a été présente et dont on sentait qu'elle était, mais par la maladie, les pestes, les morts, le pesticide, et que les sociétés tout entières, mais jusqu'à une époque récente, vivaient encore dans la panique de ces pandémies.
Mais justement, il y a une forme, Pierre Nora, d'humilité qui devrait nous saisir quand on voit, par exemple, que notre comportement pendant cette pandémie, avec le confinement, avec aussi un certain nombre de peurs, de réactions, de défiance. Moi, j'ai trouvé que la société faisait majoritairement preuve de défiance pendant cette époque-là. Eh bien, finalement, on nous rapproche de nos ancêtres de l'an 1000.
Absolument. C'est le même type de comportement que les gens avaient, jusque dans la fuite par les plus riches des villes pour se réfugier dans les campagnes, comme aujourd'hui dans les résidences secondaires, et c'était les mêmes types de populations, c'était les plus pauvres et les plus entassés qui mouraient comme des mouches, si j'ose dire. Et la peur était exactement la même. Elle n'a pas changé. S'il y a un sentiment qui a traversé les temps, c'est la peur.
Mais alors, en guise de conclusion, Pierre Dora, justement, comment expliquer cela? Est-ce que ça signifie que lorsqu'on fait l'histoire des mentalités, on fait l'histoire des mentalités qui changent, quand on s'aperçoit qu'il y a aussi des événements invariants, comme ces réflexes de crainte, ces réflexes de millénarisme aussi, avec ce sentiment donc que la fin des temps approche, ce qui manifestement n'est pas encore le cas, en tout cas, pour aujourd'hui?
Oui, et la question c'est quoi ?
La question c'est finalement comment concilier à la fois l'évolution au travers de l'histoire et la permanence d'un certain nombre de structures. Vaste problème, remarquez.
Oui, vaste problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se pose, hélas, probablement beaucoup moins ce type de problème que la génération de Duby, de Braudel, de Lecoff, qui n'est pas tout à fait la même, mais se posait. On est en passant de l'histoire des mentalités à une histoire purement culturelle, c'est-à-dire à une histoire des je n'ose pas dire des superstructures, parce que c'est un mot artiste un peu désuet, mais des imaginaires purs, on a tendance un peu à négliger juger la réalité des choses, si j'ose dire, et à s'intéresser plutôt aux imaginaires, aux idéologies, aux mythes, choses comme ça. Écoutez, comment concilier, on peut très bien la concilier, on peut très bien considérer qu'il y a des cycles, des permanences, des changements, et tous ces motifs de changement, et considérer qu'il y a un matériel humain, probablement irrépressible, sur lequel on travaille et qui demeure à peu près le même. L'amour, par exemple, a beaucoup changé depuis le XIIe siècle. Depuis l'amour courtois jusqu'à nous, c'est pas les mêmes expressions de l'amour, mais ça reste quand même quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle de l'amour.
Merci beaucoup, Pierre Nora, d'avoir été avec nous. Je renvoie donc à cette Pléiade et Georges Duby que vous avez édité 8h55 sur France Culture.